Des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, comment allez-vous? Clotilde Seille en votre compagnie pour vous présenter cette nouvelle émission des livres plein les oreilles. D'ailleurs, quand je dis Clotilde Seille, non, c'est pas vrai. Je ne serai pas toute seule, il va y avoir plein de gens encore une fois autour de moi pour évoquer, pour partager avec vous des lectures qui, je l'espère, vous tenteront et que vous irez ensuite cueillir via le SQLA. Je vous rappelle que c'est absolument gratuit, hein, si vous voulez vous inscrire au SQLA en passant par BANQ ou encore en passant par CAEB dans toutes les bibliothèques hors du Québec, donc au Canada. Alors aujourd'hui à l'émission, je vais recevoir Bernard Tremblay, qui est maintenant un habitué, bien sûr, depuis quasiment 2 ans. Également en seconde partie, une invitée en la personne de Francine Fontaine, bénévole depuis plusieurs années, qui a au moins enregistré, oh là, si c'est pas plus. Et puis, je vais recevoir à l'émission quelqu'un que qui était sur ma guest list depuis très, très, très longtemps. C'est Catherine Lalonde qui est là. Catherine Lalonde du journal Le Devoir. Salut Catherine.
Salut Clotilde.
Et salut Francine. Bonjour. De l'autre côté. Mais tout de suite, je vais m'entretenir avec l'ami Bernard Tremblay. Bonjour Bernard.
Bonjour Clotilde.
Ah, l'univers expliqué à mes petits-enfants.
Oui.
Hubert Reeves.
Hein?
Je suis contente que vous arriviez avec ça.
Ah, mais ça me
non, mais je veux dire, on parle rarement de ce sujet-là. On est souvent dans des romans, on est souvent dans quelques essais aussi, tout ça. Mais là, je trouve ça vraiment le fun.
Oui, ben je suis dans une petite démarche autour de mes contes, bien sûr.
Oui, c'est vrai que vous êtes un conteur, vous.
Et ça m'a amené à tourner mon regard intérieur aussi bien qu'extérieur vers ce qui est au-dessus de nos têtes.
Oui.
Ce qui, parfois, s'assombrit un peu trop quand on écoute trop les nouvelles en continu.
Oui. Mais c'est même au-delà de ça. Hein. Je pense que là, on parle au-delà de la petite poussière de sable qu'est la Terre. Hein.
Ah oui, tout à fait. Petite poussière de sable, c'est Carl Sagan qui avait une expression dans ce sens-là.
C'est vrai?
Oui, il a publié un livre en 1994, je crois, Le Petit Point Bleu, référence à une photo que la sonde Voyager 1 avait prise quelques années auparavant. Ah, oui. Où on voit la Terre, mais c'est presque un seul pixel dans l'image.
Oui.
Et c'est là qu'on voit à quel point on est petit dans cette
image. Et à quel point on est niaiseux de bousiller ça, et à quel point on a l'air ridicule vu d'en haut, là. En tout cas, allez, c'est une autre affaire. Parlez-nous de ce livre d'Hubert Reeves, L'univers expliqué à mes petits-enfants. Une question quand même, avez-vous des petits-enfants?
Eh non.
Ah, oh, Bernard.
Et non, je n'ai que
je suis désolée, j'espère que je ne vous ai pas fait de la peine.
Oh non, c'est de la potentialité.
Oh!
J'ai un très grand garçon, un jour, peut-être.
Ah! OK, donc, il y a du potentiel. Vous avez un grand garçon.
Oui.
Bon, alors dites-lui qu'il se mette au travail et qu'il retrouve la page du manuel. Alors!
Mais on peut dire qu'Hubert Reeves a une image du grand-père auquel on aimerait tous se reconnaître.
Ben oui.
Alors, non, c'est... Puis son propos s'adresse... On parle de petits-enfants, mais en fait, il s'adresse à des personnes de 14 ans et plus.
Mm-hmm.
Ce qui est bien pour certains concepts, parce que faut avoir un petit peu de bagage à l'école pour...
Oui, j'imagine. Hein?
Pour bien suivre. Mais l'univers est vaste et immense, mais il nous propose ça en une vingtaine de petites bouchées.
OK.
Oui, et avec beaucoup de comparaison ou d'exemple pour nous faire bien saisir les choses, les principes. Et j'ai beaucoup aimé aussi son approche sur l'évolution de la science.
Oui.
Comment on se base toujours sur ce qui est passé avant nous. Et tout ça reste très, très digeste.
Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il pointe un doigt accusateur ou est-ce que ça reste dans le domaine du constat?
Non, on n'accuse pas. On est dans les faits. La science se base sur les faits et sur l'observation. Les jugements, on laisse ça parfois à d'autres, peut-être un peu trop pressés. Donc, la science, c'est d'abord de la patience. Et de l'analyse et de l'introspection dans beaucoup de cas.
Oui. Et puis, il est question de science, ce qui n'exclut pas la poésie, d'ailleurs, il dit, hein, Hubert Reeves, là-dedans. Hein,
oui, oui.
Dans ce livre-là. Non, je dis ça parce que je fais un petit clin d'œil à Catherine Lalonde, qui écrit de la poésie. On va en parler un petit peu plus tard. Et alors, autant vous êtes dans l'univers du conte, autant elle est beaucoup dans l'univers de la poésie. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a étonné? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises en faisant la lecture de ce livre-là,
bon,
Bernard?
Moi, je suis amateur de sciences depuis longtemps, donc
oui.
J'ai pas appris beaucoup, mais ça m'a remis en tête des notions peut-être un peu oubliées. Et aussi des noms de quelques chercheurs, pas trop, mais quelques-uns, qui nous ont fait faire des pas en avant.
Est-ce que c'est un livre qu'on devrait mettre entre toutes les mains de ceux qui souffrent encore de scepticisme aigu ou de ceux qui n'ont aucune compassion pour cette terre qui part en miettes?
Moi, je le mettrais entre les mains de tous ceux qui ont un peu de curiosité. Quand on cherche à mieux comprendre le monde qui nous entoure, d'où on est, où on s'en va, c'est bon de savoir par où on est passé auparavant.
Si vous me le permettez, Bernard, je voudrais en lire un court extrait que j'ai sous les yeux, où il dit, donc, je vous rappelle qu'on parle d'Hubert Reeves dans ce livre qui s'intitule « L'univers expliqué à mes petits-enfants ». Alors, il écrit... On peut imaginer que, tout comme nous, des civilisations ont eu à faire face aux difficultés que nous rencontrerons maintenant. Coexister avec leurs propres technologies, freiner la détérioration de leur biosphère induite par l'impact de leur industrie, cette crise écologique que nous traversons pourrait être un phénomène universel, un passage obligé de la croissance, de la complexité partout où elle atteint les hauts niveaux de l'intelligence et de la conscience. Une sorte, écrit toujours M. Reeves, une sorte d'examen de passage auquel seraient soumis tous les habitants intelligents des planètes où la vie a pu, ou pourra, apparaître. Là se jouerait le destin de l'intelligence, son aptitude à ne pas disparaître en même temps que la lignée qui en a hérité avec grand dommage pour la biosphère dans laquelle elle est apparue. Notre exploration interstellaire pourrait nous amener à différents cas de figure, là où l'espèce intelligente a réussi son examen. L'aventure univers poursuivrait son évolution vers de nouveaux sommets que nous ne sommes pas en mesure d'imaginer. À l'inverse, écrit-il, là où l'espèce a failli à la tâche, on trouverait les décombres et les débris de son action. Sur ces vestiges, la vie des êtres vivants qui auraient échappé à l'hécatombe s'épanouirait à nouveau. Et si, écrit toujours M. Reeves, sur Terre, notre intelligence conduisait à pareille situation, les fruits de nos facultés créatives, l'art, la science, seraient détruits et bientôt oubliés. Les noms de Mozart et de Van Gogh ne signifieraient plus rien. Et l'admirable entraide entre les humains, leur compassion envers les êtres souffrants, serait perdue. C'est, oui, comme vous dites, c'est littérature jeunesse, mais il faut déjà en avoir lu quelques-uns. Là, on est loin de la Bibliothèque Rose quand même.
Hein? Oui. C'est pour ça qu'on s'adresse à 14 ans et plus. Mais c'est peut-être le moment le plus sombre de l'ouvrage.
Ah oui?
Oui.
Ah, c'est intéressant.
Oui.
C'est-à-dire que, oui, donc, parce que lui, vous avez l'impression qu'il est quand même optimiste sur notre avenir?
Il est réaliste. Les choses sont sombres, sont inquiétantes, mais notre potentiel, notre éveil, notre conscience, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, a dit un certain auteur.
Bernard, je vous aime. Ça y est, je suis sortie du placard, j'ai fait ma révélation, j'aime Bernard Tremblay. Et bien alors du coup, je vous ai interrompu dans votre phrase. Donc, disait un certain auteur...
Oui, science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Oui.
Alors, c'est une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est là qu'on a le choix ou pas de faire quelque chose.
Comme dirait l'autre, quand si tu pleures et que tu sors ton mouchoir, c'est parce que déjà tu vas mieux, quoi.
Eh oui.
Voilà.
Oui.
De je ne sais plus quelle auteur, mais je pense que c'est moi. Mais enfin bon, c'est pas grave.
Ah, mais là...
Non, mais c'était pour vous. C'est, j'avais envie de... Voilà.
Non, mais que de grandes citations aujourd'hui.
Oh, écoutez, Bernard, on ne se peut plus. Je vous remercie une fois encore d'avoir accepté notre invitation, Bernard. C'est toujours un grand plaisir, et puis d'avoir choisi ce livre qui nous faisait sortir de la catégorie dans laquelle on se plonge très souvent. Voilà. Prenez soin de vous.
Ah, ben vous de même.
Et puis, belle soirée de conte à l'occasion.
Ah oui, ça se poursuit.
Bon, à un moment donné, d'ailleurs, vous viendrez en studio, puis on en parlera un petit peu plus de ça.
D'accord.
C'est un rendez-vous?
Oui.
Je vous souhaite une belle fin de journée, mon petit Bernard.
Au revoir, Clotilde.
Au revoir. Depuis le temps que je la lis et qu'elle m'intrigue beaucoup, j'avais très envie, elle faisait partie de ma guest list depuis fort longtemps, de rencontrer en chair et en os Catherine Lalonde. Bonjour Catherine Lalonde.
Bonjour.
Alors on vous lit dans le devoir, mais je dois dire que c'est une de vos occupations parce que vous écrivez de la poésie beaucoup, vous faites des lectures publiques. Alors bon, vous êtes aussi, donc on le sait, journaliste. Vous faites aussi dans les sports?
Dans l'entraînement. Je viens de la danse contemporaine. Ah, alors, okay. Toute la partie du corps, de l'entraînement, okay. Du mouvement reste très importante pour moi. Mais présentement, c'est quand même le journalisme qui a la part belle de mon horaire.
Vous êtes plus dans les mots que dans les gestes.
Oui.
Bon. Alors, et je vous ai appelé Catherine parce que souvent, on le fait, on a envie comme ça d'avoir des gens afin qu'ils nous partagent leur coup de cœur. Vraiment des textes qui, pour Catherine Lalonde, sont essentiels, des auteurs essentiels. Et vous êtes arrivée avec deux noms aujourd'hui.
Avec deux noms, avec Hélène Monette, qui est une auteure avec laquelle je grandis, en fait. Et aussi, j'ai très hâte qu'on en parle ensemble avec Elena Ferrante, qui n'est pas, si j'ai bien compris, un de vos coups de cœur, Clotilde.
Non, pas du tout, ma petite Catherine. Mais regardez, je suis vraiment ravie. Vous savez pourquoi je suis ravie? Parce que je pense que tous les auditeurs pensent toujours que j'en rajoute une beurrée. Lorsque j'aime un livre, je l'aime. Et je dis que je l'aime et je ne me gêne pas pour le faire. Ici, il n'y a pas de critique. On n'est pas là pour critiquer. Je trouve que ce n'est pas la mission de cette émission, qui est vraiment de partager et de faire savoir aux gens qui nous écoutent et qui en ont besoin qu'il existe des livres audio fantastiques, adaptés pour eux. C'est pour ça que je ne critique pas. Mais il y a rarement, effectivement, des livres que je fais... Et celui-ci en est un. On va en parler un petit peu plus tard. On commence par Madame Monette.
Oui, mais avant qu'on commence, je veux juste dire à quel point pour moi c'est extraordinaire parce que la notion même de coup de cœur me pose problème. Les livres passent dans ma vie, ils me permettent de m'épanouir ou ils font éclore quelque chose à certains moments. J'y reviens plus tard, ça ne fonctionne plus. Donc à chaque fois qu'on me demande mes coups de cœur, je suis assez désemparée.
Je comprends.
Le coup de cœur d'adolescence, le dernier, l'auteur que j'ai envie de porter, l'auteur dont je trouve qu'on ne parle pas assez, puisque des fois, il y a des enjeux qui deviennent pratiquement politiques, comme ça. Alors, je trouve ça d'autant plus intéressant parce que pour moi, la littérature, c'est aussi un espace de débat. Alors que j'arrive avec un coup de cœur qui soit pour vous un couac ou un plouc ou un pétard mouillé, c'est extraordinaire. mais Hélène Monette échappe à ces définitions mouvantes, puisque je l'ai découverte quand j'étais adolescente. Okay. Je l'ai découverte en lecture publique et je l'ai lue très rapidement. Et elle m'accompagne depuis Du Goudron et des Plumes, ça fait des années, jusqu'à Thérèse pour joie et orchestre, qui n'est pas son dernier livre, qui est son avant-dernier. Le dernier étant Où irez-vous armé de chiffres?
Oui, que nous avons aussi, qui est disponible en enregistrement sonore.
Exactement.
Alors, parce que vous savez, nous, c'est le premier critère. Il faut à tout prix que les livres dont nous parlons soient disponibles, parce que sinon, c'est terrible quoi, d'entendre parler de quelque chose et de ne pas y avoir accès, c'est très, très plate. Alors, et puis Hélène Monette, j'en avais encore jamais parlé.
Et il y a un souffle chez Hélène. Ouais. On est vraiment dans la prose poétique. Mm-hmm. Il y a un lyrisme qui est là. Et Thérèse pour joie et orchestre, c'est vraiment une élégie, une musique, un souvenir pour sa sœur décédée qui passe de l'enfance à la vie adulte, aux images issues des souvenirs, à une certaine hargne, aux colères qui peuvent naître du deuil, avec toute cette musicalité-là dont Hélène est capable. Une des choses qui font que je l'ai suivie pendant tout ce temps et une des choses qui fait que je suis très triste qu'elle soit décédée, elle est partie quand même assez tôt,
en 2015. Hein, c'est ça.
Oui, exactement, d'un cancer. C'est que c'est une auteure, pour moi, qui continue au fil du temps à porter une certaine colère adolescente en raffinant pourtant sa pensée. Donc, il y a une fougue qui est là, il y a une vitalité, il y a une furie même, mais qui se raffine à travers le langage, avec l'âge. Et qui, pour moi, faisait renaître aussi ces espèces de pulsions et de pulsations-là qui sont associées à un âge plus jeune. Ces grands amours, ces grandes peines, ces grands espoirs aussi, surtout, qu'on finit peut-être parfois par négocier ou par oublier. Elle m'a reconnectée régulièrement à ça, à travers sa langue même et à travers ses sujets.
Oui, oui.
Et elle continue de me porter.
Je sais qu'Anne Hébert est quelqu'un d'important pour vous. Est-ce qu'il y a une filiation entre Anne Hébert et Madame Monette au niveau de l'écriture? C'est la question que je me suis posée.
Je suis en train de découvrir Anne Hébert. Je suis très en retard là-dessus. Okay. Donc, la poésie que je connais, le torrent que j'ai lu auparavant, et là, je suis en train de repasser à travers L'enfant chargé de songes, voyons, comment ça s'appelle, Le truc du sabbat. Ça va me revenir tout à l'heure. Le livre avec Julie la religieuse, qui est un chef-d'œuvre vraiment formidable. Alors, oui, il y aurait peut-être quelque chose dans ce rapport à la colère-là qui m'intéresse toujours, dans l'écriture et dans l'écriture des femmes en particulier.
Alors, Hélène Monette, je rappelle ce qui est disponible via le SQLA ou le CAEB, Unless... également le goudron et les plumes dont vous avez parlé. Où irez-vous armé de chiffres? Un jardin dans la nuit? Là, on parle de contes et de poèmes. Vous en aviez amené plusieurs. Là où celui-ci, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas. Il n'a pas été enregistré, celui que vous tenez entre vos mains.
Et là puis, où était ici.
Là où était ici. Et puis Thérèse pour joie et orchestre. Tout ça disponible également en braille. Alors, Elena Ferrante.
Premier round.
Non, regardez, on ne va pas se battre. Mais c'est vrai que la première question, je me suis dit, OK, je vais demander à Catherine Lalonde, arrangez-vous comme vous voulez, mais quand je ressors d'ici, je rentre chez moi et je me rue sur l'amie prodigieuse pour le finir. Pourquoi? Voilà.
Ce que j'ai adoré dans l'amie prodigieuse, pardon, qui pour moi en plus est le préféré, mon préféré des quatre, c'est cette façon qu'a Elena Ferrante de poser l'enfance comme une mythologie personnelle. Mais une mythologie aussi qui est imprégnée et qui est mue par le contexte familial et par le contexte social. Je trouve là des lignes de force, des effets de réponse. Et là, je parle non seulement dans l'amie prodigieuse, mais dans les quatre livres, puisque c'est un quadriptyque, un quatuor, une quadrilogie. Oui. Je ne sais plus comment le dire. Où tout ce qu'on voit, tout ce qui est établi dans l'amie prodigieuse résonne, revient et nous aide à comprendre à la fois les situations et les décisions sans que ça devienne jamais psychologisant. Ceci dit, c'est pour moi un mystère. Mon amour pour l'amie prodigieuse est un mystère. Je n'aime pas en général ces grandes narrations-là. Je n'aime pas les sagas, je n'aime pas les trucs qui s'étalent, qui deviennent assez précis dans le vécu. Mais il y a pour moi chez Ferrante une façon de parler de la féminité qui est inégalée. Une façon de parler des difficultés d'être femme, non seulement à l'époque, mais encore aujourd'hui, de ces espèces de complexes d'être un petit peu imposteur, pas beaucoup, un petit peu, de pas tout à fait avoir notre place, de devoir être séduisante un petit peu en même temps que très intelligente. Mais elle aborde ça déjà, la manière dont j'en parle me semble grossière par rapport à la façon dont elle amène ça.
Je comprends ce que vous voulez dire.
J'ai été éminemment touchée à plusieurs moments en ayant l'impression de quelqu'un qui me faisait un reflet acéré, aigu, extrêmement lucide de plusieurs difficultés que je n'arrivais pas encore à nommer.
Mais il faudrait peut-être aussi, parce que là, les gens nous entendent en parler et peut-être qu'ils n'ont aucune espèce d'idée de quoi parle ce bouquin.
En fait, c'est l'histoire d'une amitié sur 60 ans.
Voilà. Mais là, au début, elles sont jeunes, elles sont pré-ados.
Elles
sont toutes petites.
Elles jouent poupées.
Lorsqu'on les rencontre, voilà, c'est ça. Alors, ça, d'ailleurs, c'est une scène que j'aime beaucoup. La scène de la poupée qu'on jette. Voilà. Mais oui, elles sont toutes petites, donc. Et alors, elles vivent à Naples, dans un quartier de Naples qui est défavorisé, disons-le.
Pauvre
et violent, carrément, oui.
Et c'est Elena et Lila qui vont avoir cette amitié féroce l'une envers l'autre et l'une avec l'autre. Une amitié qui va les suivre toute leur vie. Elena, qui est peut-être la plus réservée d'entre les deux. Et Lila, qui est d'une intelligence cérébrale et sociale sauvage, mais vraiment sauvage.
C'est exactement ça. Oui.
Et indomptée. Mmh. Et on va les suivre à travers leur sexualisation, à travers leurs amours, à travers leur mari, à travers leur réussite et leur faillite, puisqu'il y en a plusieurs, et certains éléments dramatiques que je ne veux pas révéler ici, bien sûr, mais qui naissent aussi de ce contexte hyper violent où elles vivent et reviennent et d'où elles partent également. Donc, c'est vraiment, vraiment l'histoire d'une amitié, en quelque sorte, et l'histoire de famille et d'un quartier.
Et moi, je me posais la question parce que, sachant que vous alliez faire l'émission et sachant que nous allions parler de ce livre-là, je me suis dit, bon, allez, arrête, replonge-toi dans ce livre, L'amie prodigieuse. Et je m'y suis replongée, je suis même revenue en arrière. C'est vous dire, pour bien me remettre certains éléments. Et c'est terrible parce que... Oh, vous allez m'haïr, Catherine. Mais souvent, je lisais ça, puis je me disais, mais pourquoi je m'en fous? Pourquoi ça ne m'atteint pas? Pourquoi les personnages ne m'atteignent pas? Pourquoi j'ai l'impression qu'on me raconte une histoire, mais que finalement, je n'y ai pas accès, que j'ai l'impression d'être complètement... C'est à ce niveau-là, puis, tu sais, vous savez, bon, par exemple, il y a des scènes que je trouve très belles. Par exemple, la scène de la création de la chaussure, à partir du moment où elle la dessine, parce que le père de Lila est cordonnier pas riche, hein, comme on peut l'imaginer, qui fait travailler son fils, donc le frère. Et bon, d'ailleurs, le rapport entre le frère et la sœur est fort intéressant. Voyez-vous,
Et ça continue plus tard, et plus tard, et plus tard.
Ça, je vous l'accorde, mais en même temps, je vous dis, j'ai l'impression que... Oh, bon, allez, alors là, elle va lui dire ça. Ah, bon, bah là, elle va rater son examen. Ah, bon, ah, bah là, le père, il va lui passer la chaussure par la figure. Ah, ben voilà, ça y est, le père lui a passé. Pourquoi j'arrive pas, d'après vous, Catherine, à rentrer dans cette histoire-là de la même façon que vous, vous êtes... Alors, vous avez déjà lu les 4 tomes en anglais, let's go.
Peut-être parce que j'ai une fixation sur l'enfance. Mais ce serait une réponse toute personnelle. Je suis incapable de dire pourquoi vous n'accrochez pas. Je suis capable de dire pourquoi j'accroche. Ouais. Et cet accrochage-là, cet attachement-là, pour moi, est étonnant.
Ouais.
Je me demandais, rendu au 3e tome, chose qui ne m'arrive jamais, je m'inquiétais pour Elena et pour Lila. Je n'ai pas ce genre de rapport, et excusez-moi du gros préjugé, je n'ai pas ce genre de rapport, ma tante inquiète, avec les personnages des romans que je lis, je m'en fous. Je cherche un langage, je cherche un propos, je cherche une intelligence.
Oui.
Là, je l'ai. J'ai un propos social.
C'est incroyable.
J'ai un attachement. J'ai une femme aussi qui arrive à me parler de cette façon dont on n'arrive jamais à se débarrasser de nos familles, de cette façon dont nos pères et nos mères ressurgissent malgré nous, chez nous, en nous, chez nos chums. À travers, on est incapable finalement, cette femme qui arrive à nous dire à quel point on est incapable de se déraciner.
Oui, oui. Mais je suis tellement contente que vous disiez ça parce qu'en préparant l'émission, quelques jours, me disait, c'est fou. Moi, généralement, je vis avec mes personnages. Par exemple, au moment où je vous parle, je suis encore avec la grand-mère d'Anaïs Barbeau-Lavalette.
Oui.
Je suis encore avec la maman de Catherine Perrin. Je suis encore l'année la plus longue avec les personnages de Daniel
Thomas,
Grenier,
oui.
Thomas et tout ça. Je peux pas dire... Non, c'est pas vrai que je suis ma tante puis que je suis quand même pas à ce point-là, mais je veux dire, ils vivent encore avec moi. Ça, dès l'instant que je le ferme, ils sont plus là. Et je n'arrive pas à m'attacher à ces deux bonnes femmes. Et je suis contente qu'on en parle aussi librement. Et merci Canal M de me donner la possibilité de le faire. Imaginez-vous, là, les autres. Alors, je vais vous parler d'un livre que je n'aime absolument pas. Mais c'est du moment qu'on accueille quelqu'un, puis... Parce que vous, c'est exactement le contraire. Mais et je trouve ça fantastique, moi.
Mais c'est ça aussi, la littérature.
C'est ça aussi, la littérature, bien évidemment.
Et c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui fait la magie d'un livre qui nous touche ou de cette foutue notion de coup de cœur, c'est qu'il n'y aura jamais de coup de cœur pour tout le monde.
C'est vrai,
cette
exactement.
Part de mystère-là demeure, demeure formidable.
Ouais. De la même façon, d'ailleurs, que le mystère sur Madame Ferrante, que tout le monde essaye, mon Dieu, qui sait.
Parce qu'on ne sait pas c'est qui, c'est un pseudonyme. Il y a un article qui est sorti récemment dans le Guardian. Personnellement, je m'en fous. Pourquoi essayer de trouver qui est cet auteur qui ne veut pas être connu? Est-ce qu'on peut juste la lire?
Oui, exactement. Je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour parler de vous aussi, quand même, Catherine, parce que la poésie, ça vous connaît. Vous êtes vous-même une poète. Et là, j'ai vu... Et là, pardon tout de suite aux auditeurs, parce que vous avez publié pas mal de recueils. Vous avez été primée. Vous avez reçu le prix Émile Néligan, notamment. Et là, je m'aperçois que ces livres-là ne sont pas accessibles. Et alors là, je vais vous faire une proposition. Pourquoi vous ne viendriez pas les lire ici, chez Vues et Voix, pour qu'ils soient disponibles dans les mois à venir, plutôt que de lire... Non.
Bien sûr, bien sûr. Est-ce que... quelle belle question éthique. Comment est-ce qu'un auteur peut faire lui-même...
Ah, mais il y en a plein qui le font.
Pour vrai?
Mais oui, il y en a plein.
Fantastique.
Ah non, il y en a plein ici qui viennent lire leurs propres livres. Simon Boulris est venu récemment. Jean-Paul Daou est venu pour lire un bouquin de poésie.
C'est mon côté journaliste, Clotilde. Vous savez, on cherche toujours à être objectif et à se retirer un petit peu.
Mais c'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur, mais là, c'est une proposition qu'on vous fait. Parce
à laquelle
que
je réponds oui, bien sûr. Comment refuser?
Je vous remercie parce que je trouve ça quand même dommage que des recueils de poésie qui ont autant attiré l'attention publique et médiatique ne soient pas ici enregistrés, puis ça me navrait. Voilà.
Ça reste une grande question pour moi. C'est la question, en fait, que je me posais en venant ici, puis en amenant les livres d'Hélène aussi. Comment arriver à rendre la poésie dans une oralité?
Mais vous faites de la lecture publique.
Oui, et tout de suite, j'impose toujours quelque chose, selon moi, qui est déjà de trop. Mais ça, je dis ça parce que je suis une lectrice habituée à être seule avec sa feuille de papier. Donc, je suis habituée à ces espaces blancs sur la feuille qui peuvent désarçonner plusieurs personnes. Je suis habituée à ces silences, à mon imagination qui s'avance à travers ça. Comment arriver à proposer à la personne qui écoute la même liberté qu'un livre peut proposer au lecteur, ça demeure pour moi une question absolument formidable.
Est-ce que vous voulez vous essayer sur un petit bout de Madame Monette?
Oui, je peux. Je peux.
Il nous reste une minute et demie. Est-ce qu'on a assez?
Une minute et demie. On va faire très court.
On va faire court.
Et je vais lire simplement un extrait de « Où irez-vous, armé de chiffres, bien que Thérèse pour joie et orchestre reste pour moi le préféré », simplement parce que le souffle est là, très serré. N'importe quelle douche froide, c'est gratuit comme la mort. On nous imagine toutes roulées sous les tables marginales, damnées, vilaines, trop compliquées. Pauvres filles, l'air malade, elles nous épuisent, elles ne se maquillent même pas. Elles n'ont pas réussi dans la vie parce qu'elles avaient des cernes et ne portaient pas de mini-jupe en entrevue avec les managers, producteurs, gens d'affaires, toute la liste. N'importe quoi d'archaïque, d'abétissant dans une pose outrée de petite panique comparée. Et ça continue. Il y en a des pages et des pages.
Mais c'est très beau.
J'adore.
Mais oui, mais c'est très beau. Alors, on va vous faire grâce de l'audition, parce que vous venez de la passer.
Clotilde, merci.
Catherine Lalonde, c'est un plaisir, mais vraiment un plaisir de vous avoir. Vous êtes arrivée ici dans le couloir, c'était une joie, c'était une très très belle énergie et on vous remercie d'ailleurs vraiment de vous être déplacée. C'est que du bonheur et je vais finir de lire Elena Ferrante, je vous promets.
Parler littérature? Avec quelqu'un d'allumé comme vous? N'importe quand.
Merci. Catherine Lalonde, merci. Bonne fin de journée. Des livres plein les oreilles, la suite. Et la suite, eh bien, c'est un extrait de ce fameux livre dont nous parlions avec tant de passion un petit peu plus tôt, avec Catherine Lalonde qui a maintenant quitté le studio. C'est un extrait de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Nous sommes en page 62 et on se racontait justement qu'elles se connaissent, ces deux amies, depuis la plus tendre enfance, depuis qu'elles jouaient à la poupée ensemble. Eh bien, justement... Nous sommes dans une cour d'école, on va dire ça, ou dans une cour, voilà. On se voyait de plus en plus souvent dans notre cour. Nous nous montrions nos poupées, l'air de rien, l'une dans les parages de l'autre, comme si chacune était seule. De temps en temps, nous les faisions se rencontrer pour essayer, pour voir si elles s'entendaient bien. Et arriva enfin le jour où nous étions devant le soupirail de la cave avec la grille décollée. Nous procédâmes à l'échange, elle tint un peu ma poupée et moi la sienne, et de but en blanc, Lila fit passer Tina à travers l'ouverture du grillage et la laissa tomber. J'éprouvais une douleur insupportable. Je tenais à ma poupée en celluloïde comme à ce que j'avais de plus précieux. Je savais que Lila était une gamine très méchante, mais je ne me serais jamais attendu qu'elle me fasse un coup aussi cruel. Pour moi, ma poupée était vivante, et la savoir au fond de la cave, au milieu des mille bestioles qui y grouillaient, me jeta dans le désespoir. Mais en cette occasion, j'appris un art dont je devins par la suite experte. Je retins mon désespoir, je le retins sur le bord de mes yeux humides, à tel point que Lila me lança en dialecte. « Tu t'en fiches ?» Je ne répondis rien. J'éprouvais une douleur extrêmement violente, mais je sentais que la douleur de me fâcher avec elle serait plus forte encore. J'étais comme étranglée par deux souffrances, une déjà en acte, la perte de ma poupée, et une potentielle, la perte de Lila. Je ne dis rien et ne fis qu'un geste, sans montrer de répit, de dépit. Et comme si c'était naturel, même si ce ne l'était pas, et si je savais que je risquais gros, je me contentais de jeter dans la cave sa nue, la poupée qu'elle venait de me donner. Lila me regarda incrédule. « Moi aussi je suis capable de faire comme toi », récitai-je aussitôt à voix haute, épouvantée. « Maintenant tu vas me la chercher. » « Si tu vas chercher la mienne. » Nous y allâmes ensemble. Dans l'entrée de l'immeuble sur la gauche, il y avait une petite porte qui conduisait aux caves. Nous la connaissions bien. Abîmée comme elle l'était, un des battants ne tenait que sur un seul gond. La porte était bloquée par un verrou qui contenait, ensemble, tant bien que mal, les deux battants. Tous les enfants étaient tentés, mais en même temps terrorisés par la possibilité de forcer cette petite porte juste assez pour pouvoir passer de l'autre côté. C'est ce qu'on fit. Nous obtînmes un espace suffisant pour que nos corps minces et souples se glissent dans la cave. Une fois à l'intérieur, Lila d'abord et moi derrière, nous descendîmes 5 marches en pierre jusqu'à un endroit humide, mal éclairé par de petites ouvertures au niveau de la rue. J'avais peur. J'essayais de suivre Lila qui avait l'air en colère et allait droit à la recherche de sa poupée. J'avançais à tâtons. Je sentais sous mes semelles de sandales des objets qui craquaient, vieilles, vers, pierrailles ou insectes. Nous étions entourés d'objets non identifiables, de masses obscures, pointues, carrées ou arrondies. Le peu de lumière qui traversait l'obscurité tombait parfois sur des objets reconnaissables, le squelette d'une chaise, la hampe d'un lustre, des cajots de fruits, des fonds et des flancs d'armoire, des pentures. Je fus très effrayé par une espèce de visage flasque aux grands yeux de verre dont le menton s'allongeait en forme de boîte. Je le vis accroché sur un petit moine en bois avec son expression désolée et l'indiquait à Lila en criant. Elle se retourna d'un bond, s'approcha lentement de l'objet en me tournant le dos, tendit une main précautionneuse et l'enleva du moine, puis elle se tourna. Elle avait mis le visage aux yeux de verre sur le sien et maintenant elle avait un visage énorme, aux orbites rondes, sans pupilles et privé de bouche avec ce menton noir en galoche qui pendait sur sa poitrine. La suite ? Si vous vous procurez l'amie prodigieuse, vous allez savoir si elles vont récupérer ses poupées, oui ou non. Je vous rappelle que c'est d'Elena Ferrante. Bonjour Francine.
Bonjour Clotilde.
Je vous représente Francine Fontaine, bénévole ici chez Vues et Voix, qui a déjà lu, oh là là, tant et tant de bouquins et qui aujourd'hui vient nous présenter un livre qu'elle n'a peut-être pas forcément lu d'ailleurs ici comme bénévole, mais un livre que vous avez bien aimé parce qu'il y a des polars et puis il y a des très bons polars. Et je pense que celui-ci en est un.
C'est un assez bon polar, oui.
D'accord.
Oui.
Alors, allez-y, présentez-nous. Je vous laisse le soin de nous donner le titre et le nom de l'auteur.
Oui, alors le titre, c'est « Homme sans chien ». L'auteur, Håkan Nesser, qui est suédois et qui est un auteur que moi, je ne connaissais pas. C'est la première fois que je le lis et qui a été traduit dans plusieurs langues. Mmh. Le livre est sorti en 2006 en suédois et en 2013 en français aux éditions du Seuil. Alors donc, que vous me direz, un polar suédois, encore un autre? Eh bien oui, encore un autre. Cette fois-ci, sans faux suspense, sans poursuite fiévreuse, sans trop de violence, juste un peu, mais pas trop, avec un commissaire dénommé Gunnar Barbarotti, mais on est bien en Suède.
Oui.
Un commissaire qui n'est ni déprimé, ni alcoolique, qui n'a pas un passé trouble et qui a même une bonne relation avec sa fille.
Et il est commissaire.
Oh, ben ça nous change un peu. Hein? Ça, oui, c'est un peu différent. Là, c'est vraiment...
Vous avez raison.
Hein, il n'est pas, trop,
oui,
c'est il pas trop dans la marche.
C'est vrai, vous avez raison.
Alors, bon, je vous le dis tout de suite, arrivé à la moitié du roman, vous saurez comme lectrice ce qui s'est passé.
Bon.
Le commissaire, lui, ça va... Le commissaire s'en doute pas mal à ce moment-là.
Je veux dire, mais... c'est pas là où c'est l'intérêt, quoi. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. L'intérêt est ailleurs.
Okay. Le commissaire s'en doute pas mal, mais l'enquête va durer presque un an. Bon, je vais tout de suite à l'intrigue, parce que c'est pour ça qu'on est là. L'intrigue se passe dans une petite ville de province, en Suède. Ça se passe une semaine avant Noël, puis il neige abondamment, comme aujourd'hui, en ce 15 février.
Au moment où on diffuse, ce sera deux semaines plus tard, mais c'est pas grave du tout.
Alors, il neige abondamment aujourd'hui, comme dans cette petite ville de Provence, une semaine avant Noël. Dans une famille de classe moyenne, ce sont les Hermansson. Et on se retrouve là parce qu'ils vont célébrer un 105e anniversaire tout à fait spécial. 105e anniversaire, en fait, parce qu'on se retrouve pour le 65e anniversaire du père, Carl-Éric, et les 40 ans de la fille aînée, Ebba. On comprend très rapidement que ça tourne pas tellement rond dans cette famille.
Oui, d'accord.
Oh là 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 là. Chacun des personnages fait semblant. Il y a personne qui s'aime dans cette famille et chacun ronge son frein. Alors, laissez-moi vous parler des personnages parce que c'est eux qui sont intéressants.
Ah, c'est ça. C'est là où il y a tout le... Oui.
Ouais. Alors, il y a la mère, Rosemary. Rosemary, apparemment lisse, douce, réservée, édrable. Je dis bien apparemment. Il y a le père, Carl-Éric, parfait. Un modèle de rectitude, de A à Z. La fille aînée, Ebba, c'est aussi la fille parfaite. C'est le chouchou de son père. Elle est médecin, chirurgienne. Elle a un mari... qui ne fit pas du tout dans le décor. On se demande vraiment comment ça se fait que c'est son mari, mais bon, j'en dis pas plus. Et le couple de la fille aînée a deux enfants. Henrik, qui a 17 ans, aussi un enfant modèle, qui commence des études en droit, qui vit dans une autre ville. Et le plus jeune, Christopher, qui est à l'âge difficile de l'adolescence et des boutons, et qui est vraiment très perturbé dans sa tête. Le... deuxième enfant de Rosemary et Carl-Éric, c'est Robert. Robert, c'est celui qui est devenu, après une participation récente à une émission de télé-réalité, qui est devenu la honte de la famille, parce que cette participation à cette émission de télé-réalité lui a valu le surnom de Robert le branleur. Vous découvrirez pourquoi, j'en dis pas plus non plus. Mais Robert, c'est le loser de longue date de la famille. Et puis enfin, il y a la cadette, Christina. Christina, elle habite ailleurs. Elle est mariée à un producteur de TV, belle maison, grosse voiture, beaucoup d'argent. Un enfant peut-être autiste, mais une vie réglée, facile et ennuyeuse. Tout ce beau monde, donc, se retrouve sous le toit familial. Et voilà que une catastrophe se produit. Deux membres de la famille disparaissent. En premier, Robert, le fils honteux, dès le premier soir.
Pouf!
Il est allé fumer une cigarette et il n'est pas revenu. Bon, pour dire... les choses, honnêtement, on s'inquiète, mais plus ou moins, finalement, parce que chacun des membres de la famille se dit, ben, en fait, il y a bien des raisons de partir puis de ne pas rester dans cette fête familiale qui est déjà bien lourde. Alors, donc, on laisse aller un peu. On n'appelle pas la police, on ne pense pas à une tragédie, pas du tout. Mais deux jours plus tard, le fils aîné de Ebba, la chouchou de son père, disparaît à son tour.
Aïe, aïe.
Alors là, l'angoisse monte de plusieurs crans et s'insinue dans les moindres fissures de chacun des personnages.
OK.
Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les deux disparitions? Comment expliquer de telles disparitions dans une toute petite ville de province? Alors là, bon, c'est ça. Je ne vous amène pas plus loin. Je vous dirais que c'est un bon polar, mais c'est surtout un assez bon roman, justement à cause de l'étude psychologique.
Voilà, l'étude psychologique des personnages.
Oui.
Qui ne sont pas forcément sympathiques, d'ailleurs.
Ah, vous avez tout compris, vous avez bien compris. Ils ne sont pas vraiment sympathiques.
Non, c'est ça. Ouais,
puis je ne vous parle pas des personnages secondaires. Mais je vous dis que c'est à lire en hiver, c'est parfait.
Oui, parfait. Auriez-vous un petit extrait?
Oui.
Allez.
Je vais en faire un avec la mère. Je vais vous en lire un avec la mère, parce que c'est ma préférée.
Oui. Il nous reste une petite minute, ça nous fait plaisir.
C'est parfait. La mère, donc. En ce dimanche, elle entamait la deuxième matinée de sa bienheureuse retraite. Le dernier bouleversement décisif avant la mort, comme une bonne âme le lui avait gentiment fait remarquer. Avec la pensée que si elle avait eu accès à une arme, elle aurait immédiatement mis en œuvre l'idée imprimée dans son esprit au réveil. Elle se serait tirée une balle dans le front, avant même que Carl Eric n'entre dans la cuisine, vêtu de son pyjama rayé, ne s'étire en bombant le torse et ne lui déclare qu'il avait dormi comme un bébé. Si les descriptions qu'elle avait lues à propos des expériences de mort imminente étaient vraies, elle aurait ensuite eu le privilège de flotter dans la pièce et d'observer depuis le plafond son expression lorsqu'il l'aurait trouvée penchée sur la table, la tête baignant dans une grande flaque de sang chaud. Mais ce genre de choses ne se fait pas non plus, surtout lorsqu'on ne possède pas d'armes et qu'on doit penser aux enfants. En prenant une gorgée de café, elle se brûla le bout de la langue, ce qui réactiva les fonctions ordinaires de son cerveau. Qu'avait-elle au programme en ce deuxième jour après l'achèvement de toute une vie de travail? Ah oui, le grand ménage, inévitable. Les enfants et les petits-enfants commenceraient à débarquer le lendemain et mardi, ce serait le grand jour.
C'est super, ça donne vraiment envie. Merci Francine, Francine Fontaine qui nous présentait. Voulez-vous me redonner le titre du livre?
Homme sans chien.
D'accord.
De Akan Nesser.
N-E-2-S-E-R.
Absolument.
Merci Francine, au plaisir de vous avoir à nouveau à l'émission. Ça, c'est peut-être une musique qui vous dit quelque chose. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, Francine? Peut-être oui, mais vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Si je vous dis L'Exorciste, le film L'Exorciste. Eh mon Dieu, oui, non, je sais, ça ne date pas d'hier. Pourquoi je vous fais entendre ça? Parce que William Peter Blatty, B-L-A-T-T-Y, l'auteur du roman fantastique L'Exorciste, un véritable succès en librairie à sa sortie en 71, et puis on le sait, qui a été adapté au cinéma 2 ans plus tard, eh bien, M. Blatty est décédé il y a quelques semaines maintenant, à 89 ans. C'est ce qu'a annoncé vendredi William Friedkin, qui était celui qui avait réalisé le film L'Exorciste. William Peter Blatty, cher ami et frère qui a créé L'Exorciste, est décédé hier jeudi, a tweeté William Friedkin. L'épouse du romancier Julie Alicia Whitbread a expliqué au Washington Post que son mari souffrait de myélome multiple, un cancer du sang. L'écrivain Stephen King, le pape du roman d'horreur, a rapidement rendu hommage à Blatty sur Twitter en écrivant R.I.P. repose en paix. William Peter Blatty, qui a écrit le plus grand roman d'horreur de notre époque, à un de ses jours, Vieux Bill. Peut-être on en écoute un petit peu, puis après je vous raconte qui il était, ce monsieur Blatty, parce qu'il a toute une vie. Alors, M. Blatty est né à New York le 7 janvier 1928 et il a acquis une notoriété internationale grâce à ce roman « L'Exorciste » qui raconte l'histoire d'une fillette de 12 ans possédée par un démon que deux prêtres tentent d'exorciser. Selon l'éditeur HarperCollins, le roman est inspiré de faits réels survenus dans les années 1940 et il a passé 57 semaines dans la liste des meilleures ventes du New York Times, dont 17 consécutives en tête. Très mal accueilli par la critique, il a été vendu à 13 millions d'exemplaires, ne serait-ce qu'aux États-Unis, et il est désormais considéré comme l'un des plus grands romans d'horreur de tous les temps. Voyez-vous, même que Stephen King a toujours considéré que c'était le plus grand roman d'horreur de tous les temps. Son adaptation sur grand écran a été nommée pour 10 Oscars et n'en a finalement remporté que 2, dont celui du meilleur scénario pour M. Blatty. Bléthy. En 1990, M. Bléthy a rédigé le scénario. Il a réalisé L'Exorciste, la suite, le troisième opus inspiré de son ouvrage, mettant en scène un policier qui enquête sur une série de meurtres. Fils d'émigrants libanais élevé dans la pauvreté à New York, il était diplômé de l'université Georgetown, dans la capitale fédérale de Washington. Il a d'abord gagné sa vie en vendant des aspirateurs, en faisant du porte-à-porte. Sa carrière part tous azimuts. Il a été spécialiste de la guerre psychologique dans l'US Air Force, directeur des relations publiques de l'université Loyola à Los Angeles, puis journaliste, avant de bifurquer vers l'écriture et le cinéma. Voyez-vous, on ne sait jamais où la vie va nous mener. S'il est surtout connu pour L'Exorciste, Bléthy a écrit d'autres romans. Et il était plutôt spécialisé, d'ailleurs, dans des scénarios de comédie. Alors ici, au SQLA, laissez-moi retrouver, si je retrouve mes feuilles, je pense que je me suis débarrassée un petit peu trop de certains documents, mais je sais que nous avons l'exorciste, mais l'exorciste, on l'a en braille seulement. Mais au moins, je voulais quand même vous le signaler. Et il y a un autre bouquin de monsieur William Peter Bléthy que nous avons, et ce livre-là, c'est L'Esprit du Mal. Alors, si vous avez envie de vous plonger un petit peu, de vous replonger dans le roman d'horreur, eh bien, pourquoi pas replonger dans L'Esprit du Mal ou dans L'Exorciste. Alors, c'est l'heure de la bande-annonce pour la semaine prochaine. J'ai invité Geneviève Saint-Germain pour son livre « Mon âge est inventé ». Ça faisait longtemps aussi, un petit peu comme Catherine Lalonde aujourd'hui, que j'avais envie de recevoir cette femme dont j'aime le tempérament. Je n'ai pas encore lu ce livre que j'ai entre les mains, mais j'ai encore une semaine pour le faire et pour me préparer. Donc, « Mon âge est inventé ». On nous dit, c'est en quatrième de couverture, aujourd'hui, l'espérance de vie s'allonge sans cesse. Passé le cap du demi-siècle, il reste toute une vie devant soi. Autant commencer à y penser tout de suite. Avec sa plume élégante et bien trempée, Geneviève Saint-Germain nous parle de cet âge, le sien, qui est à inventer. Elle partage, comme le ferait une amie, ses réflexions sur l'art d'avancer en âge avec grâce, ses confidences sur ce que sa vie lui a appris. Et les plaisirs sans lesquels le passage du temps serait rude. Avec humour et sans détour, elle nous livre des propos en toute liberté sur la connaissance de soi-même, les joies de la cuisine, la recherche spirituelle et l'importance du parfum. « Mon âge est à inventer » est un livre à déguster littéralement, le témoignage éloquent d'une femme lucide qui a fait le choix du bonheur. Laissez-moi vous en lire un extrait que j'ai choisi assez rapidement pour vous tout à l'heure. Mon âge est à inventer, donc, ça s'appelle Le dernier tabou, et c'est en page 66. Elle écrit, Madame Saint-Germain, j'avais probablement 16 ans quand mon corps m'a déclaré la guerre. L'âge de mon premier régime, à 138 livres pour 5 pieds 8 pouces et demi, prescrit par une mère féministe qui se faisait vomir quand elle considérait avoir trop mangé. Pas tous les jours, mais à l'occasion. Assez en tout cas pour que je développe une phobie tenace pour toute forme de régurgitation. Et que ne commencent pour moi les montagnes russes des régimes plus ou moins stricts et des périodes de totale lâcher-prise. Si la cinquantaine n'est pas un moment de vérité personnelle, le reste de l'existence s'annonce bien mal. Qu'à cet âge, je veuille être transparente au sujet de ma relation à la nourriture n'est pas vraiment étonnant. Vieillir pour moi, c'est se libérer davantage, et cette assuétude fait partie de mes dernières chaînes. Ce n'est pourtant pas d'aujourd'hui que je cherche à comprendre les tenants et aboutissants de ce rapport conflictuel. J'y ai passé des heures avec mon psy. Ultimement, la cuisine est ma meilleure façon d'apprivoiser les aliments, ce qui ne veut pas dire qu'ils perdent leur pouvoir sur moi et qu'ils ne servent qu'à me nourrir, hélas, pas encore, mais ce sera le travail d'une vie, je pense. Ce rapport à l'alimentation est probablement mon plus grand secret. La chose dont je déteste le plus parler, dit toujours Geneviève Saint-Germain, même si c'est tellement évident. Gain et perte de poids, gourmandise extrême et privation, soucis liés à mon apparence, des cycles inquiétants, voire angoissants. Je préférerais que l'on pense que je ne me suis jamais préoccupée de cela et que j'assume parfaitement ma taille, que je suis au-dessus de ça. Mais non, je ne fais pas partie de ces rondes qui célèbrent ce qu'elles appellent leurs différences, pas plus que je ne crois que les rondes ne mangent ni plus ni mal que les minces. Cependant, je ne peux que me réjouir de voir les femmes, particulièrement les plus jeunes, sembler faire fi des carcans esthétiques qui paralysent et emprisonnent dans la détestation de soi. Oh, que j'ai très, très hâte de rencontrer cette femme, Geneviève Saint-Germain. C'est la semaine prochaine. Parlez-en autour de vous. Dites-le à vos amis dans le cadre de l'émission Des livres plein les oreilles sur Canal M, bien sûr. Alors, j'ai à vous offrir quelques titres en rafale aussi qui pourraient bien vous intéresser. Tiens, une petite bluette pour commencer. Quelque chose de léger, mais c'est sympathique aussi de temps en temps. Ça s'appelle « Les vraies histoires d'amour commencent à Paris ». C'est signé Cathy Kelly. Meilleures amies de la mariée, Leila et Suzy sont aussitôt désignées comme demoiselles d'honneur, mais les deux sœurs ne se parlent plus depuis quelque temps. Aïe, ça va mal. Le mariage leur permettra-t-il de retrouver leur complicité d'antan ? Birdie, la mère de Cathy, vit dans l'ombre de son mari Desmond, capitaine de l'industrie. Grâce à une révélation inattendue, les noces seront pour elle l'occasion de commencer une nouvelle vie. Et de son côté, il y a Vonnie, la pâtissière, chargée de la pièce montée pour le grand jour, qui se bat pour faire fonctionner sa famille recomposée. Alors voilà tous ces personnages-là. Qui passe et repasse et éventuellement trépasse dans ce livre « Les vraies histoires d'amour commencent à Paris » de Cathy Kelly. Mon frère n'est pas une asperge de Lynn Vanier. Ça, je pense vous en avoir touché un petit mot déjà à l'émission. Mais là, je vous en reparle parce que cette fois-ci, le livre est disponible, alors qu'au moment où on en avait parlé, le livre n'était pas encore disponible. Là, maintenant, il l'est. Et je suis d'autant plus contente de vous en parler qu'on essaie d'avoir, d'ailleurs, ici en studio, l'auteur de ce livre qui s'appelle Lynn Vanier. Mon frère n'est pas une asperge. Pour un travail de français et d'éthique en troisième secondaire, Michael doit écrire un texte de 8000 mots. L'adolescent y voit l'occasion de raconter l'histoire de son frère cadet, Ludovic, celui qui est surnommé l'asperge à l'école primaire qu'il fréquente parce qu'il est asperger. Et Ludovic est d'accord d'être l'inspiration du texte, mais il veut pouvoir ajouter ses commentaires. Alors c'est ainsi que le texte en devient un à deux mains, Michael racontant la vie de son frère et Ludovic y apportant son point de vue. « Mon frère n'est pas une asperge » est un roman vraiment intéressant pour découvrir le syndrome d'Asperger et la réalité de l'entourage de ceux qui en sont atteints. En donnant la parole à deux frères bien différents, Lynn Vanier permet au lecteur de voir les deux facettes de la médaille et aborde les questions de la différence, de l'intégration et de l'intimidation. Court et écrit dans un vocabulaire accessible, le roman peut rejoindre absolument tous les lecteurs. Oui, je sais. C'est un nom qui revient un petit peu trop souvent sur nos lèvres. Oui, je sais. Vous êtes écœurés d'en entendre parler. Mais. Et si on en apprenait plus sur ce personnage qui est devenu président de nos camarades d'à côté, du pays d'à côté, Monsieur Donald Trump, évidemment. Donald Trump, la vérité crue de George W. Beam, B-E-A-H-M. Ambitieux, fougueux et redoutable en affaires, M. Trump est un véritable phénomène. Des millions d'Américains voient en lui l'homme de la situation. À l'époque, il n'est pas encore président. Il n'est même pas encore candidat. Le richissime bâtisseur qui redonnera sa grandeur à la nation. Sa fortune démesurée lui évite en effet d'être à la merci des lobbyistes et les solutions qu'il propose, bordées de bon sens, séduisent sa base toujours croissante de partisans. D'autres, par contre, considèrent M. Trump comme un personnage grotesque, le digne héritier du capitalisme sauvage d'une époque révolue. Son franc-parler, ses propos provocants et ses insultes font le bonheur des médias, qui trouvent à tout coup dans ses déclarations matière à manchette. Donald Trump, la vérité crue, élucide la pensée du milliardaire le plus controversé du monde. Fourmillant d'extraits de discours, d'interviews et de références diverses, ce livre permet de décrypter la complexité d'un politicien dont la popularité nous rappelle que demain, il pourrait fort bien non seulement diriger le Parti républicain, mais aussi les États-Unis d'Amérique et jouer un rôle prépondérant dans les relations internationales. Pardon.
Le mystère d'Henri Pic de David Fuenquinos, j'allais dire l'incontournable. Et c'est un sujet passionnant, ma foi, qu'il nous propose dans ce roman, Le mystère d'Henri Pic. Pardon, le mystère Henri Pic. En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par les éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits. Et parmi ceux-ci, une jeune éditrice découvre ce qu'elle estime être un chef-d'œuvre, écrit par un certain Henri Pic. Elle part à la recherche de l'écrivain et apprend qu'il est mort 2 ans auparavant. Selon sa veuve, il n'a jamais lu un livre ni écrit autre chose que des listes de courses. Alors, aurait-il eu une vie secrète ? Auréolé de ce mystère, le livre de Pic va devenir un grand succès et aura des conséquences étonnantes sur le monde littéraire. Il va changer le destin de nombreuses personnes, notamment celui de Jean-Michel Rouche, un journaliste obstiné qui doute de la version officielle. Et si toute cette publication n'était qu'une machination? Alors voilà, c'est le récit d'une enquête littéraire pleine de suspense, cette comédie pétillante qui offre aussi la preuve qu'un roman peut bouleverser l'existence de ses lecteurs. Voilà, rapidement, je voudrais aussi vous rappeler quelques titres de livres d'Hélène Monette dont nous a parlé avec beaucoup d'éloquence Catherine Lalonde aujourd'hui. Il y a Où irez-vous armé de chiffres, mais également Le goudron et les plumes, et aussi Thérèse pour joie et orchestre, ainsi que Un jardin dans la nuit. Donc tout ça d'Hélène Monette et bien sûr de Madame Ferrante, l'amie prodigieuse 1 et 2. Voilà, c'était Clotilde Say qui vous remercie et qui remercie ses invités du jour, Bernard Tremblay, Francine Fontaine et Catherine Lalonde. Merci aussi à Jean-Sébastien Laliberté de l'autre côté des ondes et à Martin Forgue. Bonne semaine, bonne lecture les amis. À la semaine prochaine.